7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, évoquons la situation à Alep en Syrie où les premières évacuations sanitaires devraient débuter demain, vendredi.
Et on l'évoquait à l'instant avec Marc Répin depuis Moscou. C'est ce qu'a annoncé l'ONU il y a quelques heures, comptant donc sur le respect de la trêve promise par la Russie, en principe jusqu'à samedi soir. Suspension de ces bombardements quotidiens qui ravagent la deuxième ville du pays depuis maintenant 3 mois et surtout depuis le 22 septembre, date de cette vaste offensive de reconquête lancée par Damas. Et depuis 100 jours, vous les avez certainement vus en photo ou dans les JT, ce qu'on appelle les casques blancs syriens, des civils, habitants d'Alep pour la plupart, qui se précipitent au secours des blessés dès que les bombardements cessent. Eh bien, quelques-uns de ces casques blancs étaient à Paris hier et mardi, reçus à l'Assemblée nationale, puis à l'Élysée, venus témoigner simplement de l'horreur au quotidien. Et parmi eux, le docteur Tamam Loudami, coordinateur des secours, l'un des 23 derniers médecins encore sur place, 23 praticiens pour 275 000 habitants sous les bombes.
Alep a besoin de tout. Elle a besoin en particulier que la guerre s'arrête. Il y a 200 missiles et barils de TNT qui tombent quotidiennement sur la tête des gens. C'est la priorité pour la ville et les habitants de Alep Est. Une trêve de 8 heures, c'est très court. Si on croit en bonne volonté aux décideurs de la trêve, il faut au moins 5 jours pour pouvoir agir et évacuer les blessés éventuellement.
On a une idée du nombre de blessés qu'il faudrait évacuer comme ça en urgence.
En moyenne, nous avons 150 blessés par jour, et ceci depuis 100 jours de blocus de la ville d'Alep.
Et si on fait le calcul en tenant compte de 5 blessés nécessitant un transfert à l'extérieur de la ville d'Alep, on aura besoin de 500.
Voilà, 500 personnes qui auraient donc dû être évacuées d'Alep au nom de l'urgence vitale. La plupart sont aujourd'hui enterrés. Et selon le docteur Tamam Loudami, malgré le déluge de bombes, malgré les risques, eh bien une majorité d'habitants préfèrent encore rester chez eux dans la ville.
Je ne pense pas que la majorité des gens souhaitent sortir, quitter la ville. Peut-être 5 à 10%. Parce qu'ils n'ont pas de confiance. Donc la première raison, c'est qu'ils n'ont pas de confiance de l'armée syrienne. Deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas le moyen financier pour qu'ils puissent quitter la ville. La troisième raison, c'est leur maison, leur terre. Et si vous me posez la question, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui, d'être ici ou à Alep, je préfère retourner dans ma ville d'Alep.
Voilà, Alep, où les températures, on n'en parle pas, mais les températures vont chuter de 10 à 15 degrés dans les prochaines semaines, car on a beau être en Syrie, l'hiver là aussi se rapproche. Alors comment se chauffer dans une ville qui manque absolument de tout? Se chauffer, et bien sûr, d'abord, se nourrir.
Il y a quelques jours, un ami m'a contacté d'Alep en me demandant un peu d'argent pour qu'il puisse payer des gens afin qu'ils coupent les arbres pour distribuer avant l'arrivée de l'hiver, pour se chauffer tout simplement. Oui. Il reste encore quelques boulangers qui travaillent. Une galette du pain par personne et par jour. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Selon mes informations, il reste encore un peu de réserve pour peut-être un ou deux mois, mais pas plus.
Voilà, pas plus. Et cette trêve russe censée durer jusqu'à samedi soir seulement. Les bombardements reprendront aussitôt après. Le blocus de la ville également. Soutien de la Russie à Bachar el-Assad. Évidemment dénoncé par ses casques blancs. Et ce, dès le premier jour. Tamam Loudami.
En tant que médecin travaillant dans une organisation ONG humanitaire, j'ai eu peur parce que je savais les conséquences sur les civils.
L'intervention russe date depuis plus d'un an.
Et
depuis, la situation est très très difficile et compliquée.
Alors après tant de mois de guerre, tant d'inertie de la communauté internationale, ce médecin syrien croit-il encore en la puissance de la diplomatie et plus précisément de la diplomatie française ? Réponse.
Je suis toujours optimiste. J'espère, je ne sais pas pourquoi je suis toujours optimiste. Peut-être parce que la position de la France va influencer les autres pays, probablement. Peut-être les images qu'on voit tous les jours vont enfin changer la conscience de la communauté internationale. Mais je suis confiant.
Voilà l'espoir et l'optimisme du docteur Tamam Loudami, coordinateur des secours à Alep, au sein donc des casques blancs syriens. Traduction assurée par Anas Chaker.
Et après la Syrie, direction la Tunisie, Michael, quatrième et dernier épisode de notre série de reportages.
Ouais, et ce soir, s'il vous plaît, en musique. En musique avec un DJ allemand qui depuis 3 ans parcourt le monde arabe à la recherche de vinyles rares ou oubliés. Et quand il trouve un disque qui lui plaît, souvent des années 70 ou 80, il en cherche les auteurs et réédite l'album ou la chanson en question. Son label s'appelle Habibi Funk, Habibi pour chéri en arabe, et Funk tout simplement parce que c'est l'un des genres musicaux préférés de Yanis Sturz. C'est le nom de ce DJ allemand. Bonsoir Justine Fontaine en direct de Tunis.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors le prochain disque réédité par Habibi Funk est celui d'un groupe tunisien que vous avez rencontré, on va l'entendre. Mais d'abord Justine, expliquez-nous comment et pourquoi ce DJ a commencé ce label un peu particulier.
Oui Michael, c'était il y a 3 ans à peu près. Un peu par hasard, Yanis a profité d'un passage au Maroc pour chercher des vinyles à Rabat. Depuis Berlin, il explique qu'il a déniché des disques dont il n'avait et n'aurait sans doute jamais entendu parler.
Pour moi, ça a été un déclic. D'une part, le fait qu'il y avait de la super musique à trouver en voyageant dans la région, et d'autre part, qu'elle n'avait pas vraiment reçu d'attention ces 20 dernières années.
Il publie en ligne certains morceaux qui sont bien accueillis, et il se met donc en tête de les rééditer en bonne et due forme.
Et le premier disque qu'il réédite, c'est ça. Bon alors on aime ou pas, mais en cherchant les auteurs, ils découvrent l'histoire de tous ces groupes, de leurs musiciens, comment ils vivaient, travaillaient à l'époque, et notamment chez vous en Tunisie, Justine.
Et oui, le groupe qu'on entend, Dalton, a ensuite fusionné avec le Maraba Band et tous les deux jouaient dans les nightclubs des hôtels de la côte dans les années 70 pour des touristes et pour une élite locale. Hassan Turki était le fils du directeur de l'hôtel Maraba à l'époque. Il photographiait ces groupes et a réalisé les pochettes de leurs disques. Il raconte.
Si on vous dit, moi, papa, je veux être guitariste ou bassiste dans un groupe, c'était et jouer le soir et dans un hôtel du surcroît, c'est vraiment la honte de la famille. Comment vous jouez le soir et dans un nightclub? C'est-à-dire, on sait même pas ce qui se passe là-bas. Et c'était ça. Moi, je me rappelle, j'avais 17 ans et il n'y avait pas ce qu'on racontait dehors, c'est-à-dire les gens venaient pour essentiellement écouter de la bonne musique.
Avec les salaires des hôtels, le groupe issu de la fusion des Dalton et du Maraba Band, Carthago, a enregistré et édité le premier album tunisien, hormis la musique traditionnelle. Écoutez cet extrait.
Croisière s'amuse à Carthage. Et c'est cette chanson Anen qui va donc être rééditée le mois prochain. Mais aujourd'hui, Justine, que sont devenus ces groupes? Tout simplement, est-ce qu'ils sont encore connus en Tunisie?
Eh bien, aujourd'hui, ils sont un peu oubliés, mais Carthago a quand même été le premier groupe tunisien à se produire dans un stade de foot. C'était au début des années 80, un stade plein à craquer, d'ailleurs. Eshmi Miliani, l'un des guitaristes de Carthago, se souvient que le groupe a disparu peu de temps après ça.
L'hôtel voulait faire une discothèque. Après le 31 décembre, on faisait encore une semaine, puis on s'arrêtait pour un mois. C'était le mois de janvier. Et soudain, avant de prendre le congé, on dit « Vous ne revenez plus. vous partez. Il faut se dire qu'à l'époque, nous, on mangeait et on habitait au Maraba. C'était une catastrophe.
Aujourd'hui, Eshmi et Hassan sont des hommes d'affaires de la région de Sousse, près de l'hôtel Maraba, là où tout a commencé.
Ah, il y a des pépites. Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis. Merci beaucoup Justine et salut amical donc au label Habibi Funk qui ressort l'unique disque des Tunisiens de Carthago. Ce sera dans un mois pile.